Scepticisme scientifique,
le balado de la science et de la raison pour le samedi 12 mars 2011, Adamski. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Marc Calais, donc qui revient sur le balado. Il était déjà venu nous parler de la thèse mythiste précédemment, mais cette fois-ci, il vient nous présenter son tout nouvel ouvrage consacré au contacté George Adamski. Aujourd'hui donc, Marc Calais revient sur le balado pour nous parler plus en détail de son ouvrage, de son dernier ouvrage qui s'intitule « Le cas Adamski » et qui a été publié par les Cahiers Fortéens, donc qui est les Cahiers Fortéens volume 1. Bonjour.
Bonjour.
Alors, oui, c'est vrai que tu es un expert du cas Adamski. Tu as déjà publié des articles et un autre ouvrage au moins sur ce sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce nouveau livre?
En réalité, ce fut une opportunité. Il se fait qu'il y a quelque temps de cela, un Japonais m'avait demandé, qui se présentait comme éditeur, m'avait demandé d'écrire un livre sur Adamski, qui aurait été spécialement destiné à un public japonais. Et pour des raisons assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'en fait ce monsieur n'était pas éditeur du tout, ben, l'ouvrage ne s'est pas fait et il est resté dans des cartons. Et lorsque Jean-Luc Rivera m'a proposé à son tour d'écrire quelque chose, eh bien j'ai ressorti le livre de ses cartons. C'est aussi simple que ça. C'était aussi une occasion enfin de faire connaître, me semble-t-il, mes travaux sur Adamski à un plus large public. Car jusqu'à présent, malheureusement, je les avais soit auto-édités, ou soit ils avaient subi diverses avanies qui faisaient qu'ils n'étaient qu'incomplètement connus.
Oui, ben commençons par le commencement, puisqu'il y a certainement des auditeurs qui ne savent pas qui est Adamski. Alors tu peux nous raconter un peu qui c'était et qu'est-ce qu'il prétendait?
Alors Adamski est apparu sur la scène des soucoupes volantes ou de l'ufologie dans les années 50, tout au début des années 50, en prétendant d'abord avoir rencontré un Vénusien dans un désert californien et avoir pu prendre de très bonnes photos de sa soucoupe volante. Alors, dans un premier temps, il s'est fait connaître surtout par les photographies qui ont fait le tour du monde. Et peu de temps après, le manuscrit a suivi. Manuscrit qui a été publié conjointement avec un autre manuscrit d'un auteur anglais, Desmond Leslie, qui a fait cette autre partie de manuscrit une importance plutôt historique dans le domaine de l'ufologie. Donc les deux manuscrits se complétaient très bien. D'une part, une espèce d'introduction historique à l'ufologie, et d'autre part, le récit du contact d'Adamski dans le désert de Californie. Alors Adamski avait dit que si son livre marchait bien, c'est le terme lui-même qu'il utilisait, et il en écrirait peut-être un autre. Et en fait, il en a écrit un second quelque temps après avoir tâté quelque peu autour de lui de nouveaux récits pour voir comment les gens y réagiraient. Et ces nouveaux récits racontaient cette fois des voyages qu'Adamski aurait fait dans l'espace à bord de cigares volants et de soucoupes volantes. Des voyages quand même relativement restreints, enfin si l'on peut le dire, parce que ça l'avait amené jusqu'au bord de la Lune. Donc, il était resté tout d'abord à très haute altitude au-dessus de la Terre, et puis par deux fois, il était allé vers le bord de la Lune. Après ce second ouvrage qui lui est paru en 1955, Adamski a fait énormément de conférences un peu partout. Il a voyagé dans le monde entier et il a continué ses récits en continuant à prétendre avoir des contacts de plus en plus réguliers, avec même à un moment donné des extraterrestres un peu différents de ceux qu'il avait rencontrés tout d'abord. Et puis alors, vers la fin de sa vie, il a publié un rapport qui a causé pas mal d'émoi, qui était un voyage sur Saturne. Alors il prétendait être allé sur Saturne où il avait assisté à une espèce de concile où les représentants des planètes de notre système étaient tous présents. Et ce qui avait un peu choqué à l'époque, c'est qu'il avait utilisé un terme en disant que ceux qui étaient assis aux tables, étaient un peu comme des Christs. Et beaucoup de gens avaient confondu et avaient pensé qu'Adamski prétendait avoir rencontré Jésus-Christ. Ce qui, pour des Américains, était assez choquant. À ce moment-là, il y a eu dans son groupement une espèce de schisme. Il y a eu beaucoup de discussions et le groupement d'Adam, qui s'était formé autour d'Adamski a en quelque sorte volé en éclats, chacun partant plus ou moins de son côté avec ses idées. Et bon, cela, c'est un événement qui s'est produit dans les années 60. Et George Adamski est décédé en 1965, peu après avoir fait un dernier trucage extraordinaire, qui était un trucage filmé cette fois. Tout au long de sa carrière de contacté, Adamski avait présenté plusieurs films d'OVNI, et ce dernier-là était particulièrement réussi. Voilà, en bref, la carrière d'Adamski. Alors, j'ajouterai deux choses importantes. Il a prétendu avoir été reçu par le pape Jean XXIII, et il a effectivement été reçu par la reine Juliana de Hollande.
Oui, il fait partie du phénomène des contactés, mais est-ce que tu dirais que c'est le contacté le plus célèbre, en tout cas dans cette période de temps? À l'heure actuelle, on parle surtout de Raël, je dirais, de l'Église raélienne pour ce style d'individu.
Oui, justement, si on se situe dans la période des années 50, 60 et même 70, on peut dire qu'il a été le plus célèbre. Il a été aussi probablement le plus actif de tous, à la fois par ses publications, par ses conférences et par la manière dont on parlait de lui dans la grande presse. Après cela, évidemment, il est un peu tombé dans l'oubli parce que, il y a eu des contactés qui ont pris la relève avec des récits finalement beaucoup plus fantastiques. Il est bien évident que les récits maintenant de voyages dans des grands cigares volants avec des petits gris, avec des phénomènes de gens qui sont kidnappés, violés, etc., c'est quelque chose de beaucoup plus saisissant. Et puis il y a eu aussi des films de cinéma qui ont été faits sur le sujet. Il y a eu, un des premiers a été le film qui a été fait au départ du contact des extraterrestres avec des yeux bridés et un couple d'Américains, Barney et Betty Hill. Là, il est évident que ce genre de choses, à l'heure actuelle, est beaucoup mieux connu, des jeunes ufologues ou des jeunes ufomanes, que le cas Adamski. Mais c'est le cas Adamski qui a vraiment posé les bases de tout ce que l'on peut considérer à l'heure actuelle comme la littérature des contactés. Et beaucoup de contactés modernes ont puisé, consciemment ou non, dans les écrits d'Adamski.
Comment est-ce qu'il décrivait un peu les extraterrestres qu'il rencontrait, l'espèce principale au départ, en quoi elle consistait?
Comment il les décrivait?
Oui.
Oh, il les a décrits comme des gens rigoureusement semblables à nous, puisqu'il prétendait même que certains d'entre eux vivaient incognito dans tous les pays du monde. Mmh. Et qu'ils vivaient incognito pour mener à bien diverses missions, qui étaient souvent des missions, un peu d'ordre politique, puisqu'il disait que ces extraterrestres avaient des contacts avec les politiciens au plus haut niveau. Tout cela dans une perspective d'essayer d'empêcher que la Terre ne soit détruite par les explosions, les expériences nucléaires, par la pollution et toute une série d'autres choses. Donc, le but des extraterrestres en venant ici, c'était plus ou moins des sages qui venaient nous apporter la lumière et qui essayaient de nous amener sur le chemin de la fraternité cosmique pour que l'on puisse vivre en paix, tant entre nous qu'avec eux.
Et toi, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à Adamski? À quelle époque ça a commencé?
J'étais un jeune adolescent quand j'ai lu le premier livre que Jimmy Gueux avait écrit sur les soucoupes volantes. Et là, il y avait tout un chapitre qui était consacré à George Adamski. Et un petit peu avec les sentiments que l'on peut éprouver dans l'adolescence par rapport au bien, au mal, au vrai, au faux, je me suis pris d'une véritable passion pour ce monsieur qui avait l'air d'être dénigré simplement parce qu'il avait osé dire qu'il avait rencontré des extraterrestres. Et ce monsieur était traité de fou, de menteur, d'escroc, rien qu'à cause de cela, apparemment. Si il fallait en croire, évidemment, ce que Jimmy Gueux écrivait. Donc j'ai essayé de m'informer sur Adamski, d'abord en lisant son récit propre, et puis j'ai eu la chance d'entrer en contact avec une personne ici en Belgique qui avait très très bien connu George Adamski et qui le représentait officiellement dans ce pays. Alors, le contact a été pris, puis peu à peu, nous nous sommes rencontrés fréquemment, j'allais fréquemment chez cette personne, j'avais accès à l'ensemble de ses dossiers, Et un jour, elle m'a demandé de d'écrire quelque chose en faveur d'Adamski, pour en quelque sorte essayer de le réhabiliter. Et à ce moment-là, j'ai marqué mon accord, mais j'ai dit que c'était à une condition essentielle, c'était de pouvoir reprendre à zéro toute étude et de vérifier chaque point particulier. Bon, d'une certaine façon, ça l'a emballé, parce qu'elle y croyait dur comme fer, tout comme moi. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes vérifications, j'ai trouvé des contradictions, des erreurs, des mensonges. Et là, évidemment, nos excellentes relations ont commencé à se gripper, je dirais. Et nous en sommes arrivés à un moment donné à devoir nous séparer parce que nous ne pouvions absolument plus nous comprendre sur ce terrain-là. Et à l'époque, j'ai été contacté par un tout jeune éditeur français, Michel Moutet, qui désirait lancer une revue sur les soucoupes volantes et également publier des bouquins. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de me lancer dans un premier ouvrage sur Adamski. Bon, cet ouvrage a été bloqué par cet éditeur pour des raisons financières. Et pendant tout le temps qu'il était bloqué, j'ai continué à progresser dans mes études. Et au moment où cet ouvrage a été publié, mes études avaient beaucoup plus progressé. Et en conséquence, il y avait un hiatus entre ce qui était publié et ce que je disais ou que je diffusais ailleurs. Ce qui a fait que les gens n'ont pas très bien compris. Et c'est cela que je disais tout à l'heure, mon étude sur Adamski a un peu souffert de ce genre de choses. Donc j'ai essayé de rectifier le tir par après en faisant des publications moi-même au sujet d'Adamski, mais évidemment elles avaient une très faible diffusion. Et donc le premier ouvrage étant beaucoup plus largement diffusé, il y a certainement beaucoup de gens qui s'imaginent encore à l'heure actuelle que mes opinions sur Adamski sont celles du premier livre.
Commençons par discuter aussi de ce qui t'a amené à douter. Quels sont les éléments qui t'ont commencé à te faire penser dans ces années-là, quoi, que Adamski n'était pas aussi honnête qu'on pouvait le croire?
Eh bien, le tout premier élément a été un élément vraiment factuel. Je te disais tout à l'heure qu'à la fin de sa vie, Adamski a fait un magnifique trucage qui était un film montrant, en apparence, une soucoupe volante de très près. Ce film, personne jusque-là n'avait jamais pu dire qu'il était truqué. Il n'y avait aucune preuve de cela. Et donc, il passait vraiment pour authentique. Dans le groupement où je travaillais, qui s'appelait le Buffois, on aurait bien voulu avoir, en quelque sorte, une preuve de l'authenticité du film sous la forme d'un écrit qui aurait été fait par un photographe ou un cinéaste professionnel, afin de valider le film et de dire qu'un simple particulier ne pouvait en aucun cas réaliser un trucage pareil. Donc j'ai proposé de soumettre le film à un cinéaste professionnel. Et nous avons regardé cela dans une salle un jour soir, et ce cinéaste m'a donné toute une série d'indications. Évidemment, rien qu'en regardant le film, il ne pouvait pas deviner s'il était ou non truqué. Mais il y avait déjà des indications fort précieuses dans ce qu'il me disait. Et puis à un moment donné, il a attiré mon attention sur un ensemble d'images bien précises, en me disant ce sont ces images-là qu'il faut examiner de près. Alors j'avais l'occasion, moi, de les examiner de près, parce que j'avais un microscope professionnel, et j'ai carrément mis le film sur la platine du microscope. Et là, il n'y avait aucun doute possible. On voyait très nettement qu'au point précis, sur l'image précise, où la soucoupe paraissait passer derrière un arbre, il y avait les deux images, en quelque sorte, celle de la branche d'arbre et celle de la soucoupe, se superposaient. C'est-à-dire que la densité au niveau de cette superposition était beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et donc ça, c'était une preuve flagrante qu'il y avait superposition de deux images et donc trucage. Et un trucage qui ne pouvait évidemment être que volontaire. Ça ne pouvait pas avoir été l'effet d'un hasard ou d'une erreur. Donc là, j'avais la certitude qu'Adamski avait menti. Il y avait une volonté de mentir, et s'il avait eu une volonté de mentir à ce moment-là, peut-être l'avait-il déjà eu auparavant. C'est ça qui était pour moi l'élément déclencheur. Donc j'ai voulu creuser bien davantage. Une autre idée que j'ai eue, c'est de contacter des spécialistes qui auraient pu me dire si oui ou non la médaille qu'ils prétendaient avoir obtenue du pape Jean XXIII était bel et bien une décoration du Vatican comme il l'avait dit. Et là aussi, très rapidement, j'ai eu la certitude, par donc des spécialistes, que cette médaille était une médaille strictement commerciale, qu'elle n'avait rien à voir avec le Vatican. Deuxième mensonge évident. Rien que ça, ça faisait déjà beaucoup. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai repris tous les écrits d'Adamski, je les ai remis dans l'ordre chronologique, et j'ai commencé à vérifier, point par point, tout ce qu'il disait. Et c'est là que me sont apparues des contradictions, ou bien des inventions. Par exemple, il disait qu'il avait été le premier à parler des ceintures de Van Allen. Or, ce dont il parlait, c'était effectivement des ceintures de radiation autour de la Terre, mais des ceintures qui avaient, selon lui, été provoquées par nos explosions nucléaires. Aucun rapport avec les ceintures de Van Allen. Donc là, j'ai bien vu qu'il se payait la tête des gens. En réalité, il faisait passer pour une chose ce qui était tout à fait autre. Donc il y avait chez cet homme une volonté manifeste de tromper et une certaine facilité au niveau de la capacité à faire passer certaines choses pour d'autres. Et ça, c'est quand même typiquement l'esprit d'un escroc intellectuel. Et j'ai continué à creuser dans ce sens et toutes les escroqueries intellectuelles se sont suivies les unes après les autres. J'ai pu alors finalement établir aussi que les premières photographies étaient truquées. Et dans la toute dernière version de mon ouvrage, je montre que les trucages n'ont peut-être pas été faits par Adamski, mais par un photographe professionnel. Ce qui, dans cet ouvrage, est un véritable scoop. Ça n'avait jamais été dit auparavant. Voilà le genre de choses. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. J'ai pu vraiment décortiquer chaque chose qu'Adamski avait dite. Toute une série d'inventions, par exemple, on disait, Adamski, bien avant tout le monde, a décrit les lucioles de l'espace. Qu'est-ce que c'est ces lucioles? Ce sont des petites particules lumineuses qui semblent flotter dans l'espace. Or, en réalité, ces particules lumineuses qu'il avait décrites dans son second livre, et qu'on a cru décrites par des astronautes par la suite, ne sont pas encore une fois du tout les mêmes choses. Chez Adamski, ces petites particules auraient été des particules énergétiques. Tandis que ce que les astronautes américains, russes et autres ont vu, eh bien, c'était en fait des particules qui provenaient de leur propre capsule. Des petits débris de peinture arrachés, des petits cristaux d'eau, etc.
Quelle était la motivation qu'il avait qu'est-ce que ça lui apportait, ces mensonges? Enfin, il cherchait quoi? La gloire, l'argent?
Ça, c'est peut-être la partie la plus intéressante, si je puis dire, du phénomène Adamski. En réalité, il faut replacer Adamski dans son contexte. Adamski n'a pratiquement fait aucune étude. Et très jeune, il a fait toute une série de petits boulots. Et puis, il s'est rendu compte qu'il gagnerait peut-être plus facilement sa vie, sans faire le moindre effort, en devenant une sorte de prédicateur, un peu comme on voit tous ces prédicateurs américains. Et lui, il rêvait de diffuser une philosophie qui était un mélange de spiritisme, de théosophie et de beaucoup d'autres choses qu'il avait pêchées ici et là. En réalité, qu'avait-il fait? Il avait fait une sorte de résumé de toute une série d'idées qu'il avait entendues à gauche et à droite, et il avait simplifié cela à outrance pour rendre le message plus facile à être adopté par des disciples. Et donc, de cette façon-là, il a attiré autour de lui pas mal de disciples, des gens assez naïfs, et il s'est investi, prêtre, dans une espèce de culte lamaïste. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les années plus ou moins 30. Il a vivoté pendant un certain temps en faisant des conférences, des causeries à la radio, dans le cadre de ses activités lamaïstes. Et puis, dans les années 40, quand on a entendu parler pour la première fois de soucoupe volante, eh bien, il s'est dit qu'il y avait là quelque chose à ajouter, en quelque sorte, à ses activités. Et il a prétendu avoir vu pas mal de scoops volantes. Puis il a prétendu en avoir photographié à l'aide d'un petit télescope qu'il avait dans son jardin. Quand il a vu que ses articles sur les scoops volantes, ses photos sur les scoops volantes attiraient sur lui beaucoup plus l'attention qu'auparavant, sans doute s'est-il dit qu'il y avait là vraiment un nouveau marché à saisir. Et il a essayé, en fait, de mélanger ses théories philosophiques, je vais dire philosophico-religieuse, au marché qui s'ouvrait dans le domaine des soucoupes volantes. Et c'est ça l'idée de son premier contact et de son premier livre. Comme ça lui a rapporté quand même pas mal d'argent, à ce moment-là, parce que ça a été un énorme succès de librairie, ce premier livre, il a décidé d'en écrire évidemment un second. Comme il était un peu à court d'idées, Qu'a-t-il fait? Eh bien, ce second livre, en fait, c'est un remake d'un roman qu'il avait publié quelques années auparavant. Roman dans lequel il racontait les voyages d'un groupe d'astronautes américains dans l'espace, sur Vénus, sur Mars, sur la Lune. Et c'est ce remake qui est devenu ses propres récits de contact dans l'espace avec des extraterrestres. Ça, on peut clairement démontrer que c'est un remake, parce que des chapitres entiers sont inspirés les uns des autres. On voit qu'on a recopié vraiment, mot pour mot, toute une série de phrases, ou que l'on a recopié vraiment des descriptions précises d'objets, etc. Voilà ce qui s'est passé. Et évidemment, le temps passant, Adamski a eu de plus en plus autour de lui des adeptes de toutes sortes, qui lui faisaient des donations généreuses, qui d'abord l'adulaient. Et je pense que c'est un homme qui aimait bien être adulé, surtout par, à la limite, des femmes. Et donc, il avait une petite cour qui tournait toujours autour de lui. Ça lui plaisait bien. Donc, à la fois, il ne travaillait pas du tout, du moins durement, comme il l'avait fait dans ses jeunes années. Et il se contentait de parler pour recueillir non seulement l'admiration, mais de l'argent. Ben, quoi de mieux? Et donc, il a vécu de cette façon-là jusqu'à la fin de ses jours.
Ce groupe, est-ce que tu dirais que ça serait, ce qu'on peut dire que c'est une sorte de secte qu'il avait créée ou
Oui, mais d'une certaine façon, oui, c'était une secte. Ça fonctionnait en tout cas comme une secte, avec des naïfs qui étaient entièrement dévoués, à l'homme qu'il était, qui aurait fait n'importe quoi pour lui, qui essayait d'arranger pour lui toutes les choses pratiques de la vie, c'est-à-dire qu'on s'occupait de faire à la fois son ménage, on faisait les courses pour lui, certains arrangeaient tout ce qui était nécessaire pour les conférences, pour ses voyages, il n'avait qu'à se laisser faire. Il se contentait de parler, et tout le reste venait de ses disciples, c'était eux qui organisaient. Évidemment, bon, ça ne lui a pas permis de faire véritablement fortune comme un réel. Mais Adamski était quelqu'un qui vivait d'une certaine façon assez simplement, et ça lui suffisait. L'important, je crois, pour lui, c'était de ne plus avoir à travailler. Et c'était d'avoir cette petite cour de gens qui l'admiraient. Ça, je crois que ça lui faisait grand plaisir. Et puis, ça lui a permis aussi de voyager. Et lorsqu'on lit son troisième livre, dans lequel, par exemple, il raconte un de ses voyages autour du monde, en lisant entre les lignes, on comprend le plaisir formidable qu'il a eu à, en fait, passer des vacances, parce que pour lui, c'était les premières vacances de sa vie, passer des vacances à l'œil, en profitant de la naïveté des autres. Et plus tard, lorsqu'il a eu fini ce genre de tour du monde, ce genre de vacances pour lui, qui avait d'ailleurs commencé, si mes souvenirs sont bons, à Hawaï, où il n'avait même pas donné des conférences, il y était simplement allé pour se reposer, dit-il. C'est tout dire. Et bien donc, après cela, il s'est souvent rendu chez une personne extrêmement riche qui habitait au Mexique, et qui le recevait, et chez qui, donc, il passait des semaines entières pour se reposer. Ensuite, il est passé dans un autre endroit, chez Miss Rutherford, qui avait une très grande villa, qu'il recevait chez lui aussi. Et là, il ne faisait rien, absolument rien. Donc c'était vraiment un homme qui avait trouvé un art de vivre, si je puis dire, qui consistait à profiter de la naïveté des autres. Il se laissait vivre. Donc, oui, ça fonctionne un peu comme une secte, mais ce n'est pas une grande secte, disons. C'est plutôt un espèce de gourou qui a su limiter ses ambitions.
Tu parlais précédemment des trucages sur les photos. Quel type de trucage il employait pour réaliser ses photos d'OVNI?
Il employait des trucages finalement extrêmement simples. Par exemple, dans son deuxième livre, on dit premier, deuxième, troisième livre, en considérant que le premier, c'est celui où il raconte le contact. En réalité, il a écrit des petits livres auparavant. Mais c'est comme ça qu'on dit. Donc, dans son deuxième livre, il montre des photographies du hublot d'un cigare volant, derrière lequel il se tient avec son ami vénusien. Qu'est-ce qu'on voit? En réalité, on ne voit que des ronds blancs, avec dans ces ronds blancs éclairés, ce qui ressemble à être des visages qu'on ne distingue pas très bien. C'est tout. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de photos qui ont certainement été prises dans une pièce sombre, où on a mis un carton avec des trous dedans, et on a mis quelqu'un derrière le trou. C'est tout. C'est aussi simple que ça. pour les premières photos qui sont dans le premier livre, donc là c'est un petit peu plus sophistiqué parce que au départ on pouvait croire que c'était des photos qui avaient été prises à l'aide d'un télescope qui jouait un peu le rôle d'un super téléobjectif. Mais lorsque des spécialistes en photographie astronomique examinent ces photos-là, ils disent ça a été pris avec tout sauf un télescope. C'est pas possible qu'avec le télescope qu'il avait, il ait obtenu des résultats comme ça, pour toute une série de détails. Et dans le dernier livre donc, que j'ai écrit, qui vient de sortir, j'explique que les photographies ont très certainement été prises en studio par un photographe professionnel, qui évidemment n'a pas révélé ces trucs, mais qui est très probablement parti d'une maquette. Cette maquette, soit lui a été remise par Adamski, soit c'est lui-même qui l'a construite, et il l'a remise à Adamski. Parce que cette maquette a fait sa réapparition à un moment donné dans la propriété d'Adamski, ou plutôt la propriété d'une de ses amies chez qui il logeait. Et cette maquette a été aperçue par des gens qui étaient là. Alors il expliquait que c'était une sorte d'antenne de télévision, mais bon, son explication ne tient pas debout. Ça a fort troublé les gens qui ont évidemment remarqué que cet objet ressemblait très fort aux photos qu'il avait montrées. Et puis très probablement qu'il y a eu une dernière maquette pour le film, à moins que ce ne soit la première qui est resservie à nouveau. Ça, c'est difficile à dire. Donc, finalement, il s'est servi essentiellement de petites maquettes ou de bouts de carton, c'est tout.
Tu dirais qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient en Adamski? Est-ce qu'il y a encore des groupes qui le suivent ou qui suivent son...
Malheureusement, oui. Mm-hmm. Malheureusement, oui. Au Japon, il y a énormément de gens qui y croient encore, qui organisent d'ailleurs encore des espèces de pèlerinages sur les lieux du premier rendez-vous, donc du premier contact dans le désert. Donc il a encore ses femmes, ça c'est un fait. Et puis il existe quand même toute une série de gens qui ont lu le premier livre d'Adamski qui a été publié chez J'ai lu. C'est celui qui en France a été le plus diffusé. Donc il y a énormément de gens qui effectivement ont lu cela et y ont plus ou moins cru. Bon, il faut bien dire que ce sont des gens extrêmement naïfs. Et puis il y a des gens qui y croient parce que tout simplement cela semble corroboré par d'autres contactés qu'il y a eu ensuite. Et donc ces gens ont un raisonnement simpliste en se disant si d'autres l'ont dit, ben, c'est que lui avait raison aussi. C'est évidemment pas comme ça que ça fonctionne, mais dans le raisonnement, c'est comme ça. Donc oui, il y a encore pas mal de gens, je pense, qui croient plus ou moins en Adamski, mais il faut bien se dire aussi qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas réellement la totalité de la vie d'Adamski. Donc quand je dis ils croient en Adamski, ben, ils connaissent son premier contact. Ils savent vaguement que par la suite, il aurait prétendu avoir voyagé dans des soucoupes volantes. Mais c'est tout ce qu'ils en savent.
Est-ce que tu dis... Or,
par exemple, ces gens-là, le fameux voyage sur Vénus, le voyage sur Saturne, etc., qui n'ont pas encore été publiés en langue française.
Est-ce que tu dirais que ton ouvrage, ton dernier ouvrage, en quelque sorte un ouvrage définitif sur la question qui enterre...
Sur Adamski, certainement. Mm-hmm. Sur Adamski, certainement. Bon, je ne vois pas beaucoup ce qu'il y aurait à ajouter. Il y aurait encore peut-être certains détails par la suite à dire, mais non, non. C'est terminé pour moi. Et puisque tu me dis qu'on en arrive à la fin de ton émission, je voudrais quand même faire une petite mise au point qui sera un petit scoop. Okay. Il y a des gens dans la Fondation Adamski, qui existe toujours, qui ont dit énormément de mal sur un ancien collaborateur d'Adamski qui était Carol René. Carol René a longtemps travaillé avec Georges Adamski et puis un jour il l'a quitté, à l'époque de ce que l'on appelle le grand schisme. C'est-à-dire quand Adamski a prétendu être allé sur Saturne. Et à partir de ce moment-là, Carol René a dit qu'Adamski était un menteur, du moins à partir d'un certain moment. Pour Carol René, Adamski a dit la vérité jusqu'à un certain point, et puis à un moment donné, il s'est mis à mentir. Et selon René, il s'est mis à mentir probablement parce qu'il a rencontré des extraterrestres, une nouvelle équipe qui était des menteurs. Donc Adamski aurait été à la fois un peu dupe des mensonges, et puis il en aurait remis lui-même une couche. Alors, on a dit beaucoup de mal, évidemment, au sein de la Fondation Adamski sur Carol René, parce que, en quelque sorte, c'était le seul proche d'Adamski qui avait osé piétiner cette demande et dire clairement et prouver par des documents qu'Adamski avait fait des plagiats, avait fait des remakes de ses écrits des années 30 et qu'il les avait fait passer pour des enseignements des extraterrestres. Ce qui, évidemment, ne collait pas du tout avec ce qu'Adamski prétendait. Moi, je tiens à préciser que Carol René était un parfait honnête homme. Je ne suis pas d'accord, évidemment, avec ses idées, avec ses conclusions. Et lui n'était pas du tout d'accord avec les miennes non plus. Mais il se fait que, il y a quelques années d'ici, nous sommes entrés en contact, nous avons longuement discuté ensemble, nous avons échangé pas mal d'idées, et je tiens surtout à dire que Carol Honnet était un homme irréprochable au point de vue de l'honnêteté intellectuelle. Ce que Carol Honnet a dit sur Adamski doit être considéré comme quelque chose d'absolument vrai au niveau testimonial. Maintenant, il faut interpréter les témoignages. Mais Carol Honnet n'a pas essayé de salir Adamski volontairement pour l'une ou l'autre quelconque obscure raison. Carol Honnet était un type extrêmement droit, avec une très grande honnêteté intellectuelle, et je vais en fournir une preuve qui pour moi est décisive. C'est que lorsque j'ai entrepris sur mon site internet de mettre un texte en anglais pour démontrer que les photographies et surtout le film Rutherford étaient des faux, Carol Honnet m'a aidé, notamment au niveau de la langue américaine, pour y placer certaines expressions typiquement américaines. Donc Carol Honnet a entièrement revu un texte qui était tout à fait opposé à ses idées, et il l'a fait d'une manière tout à fait bénévole et tout à fait neutre. Et ça, je tiens à souligner cette grande honnêteté intellectuelle, et je crois qu'il fallait le dire pour sa mémoire. C'est le scoop que je t'offre. Je n'avais encore jamais dit que Carol Honnet m'avait aidé à ce point. Mm-hmm. Et bien maintenant, voilà, c'est dit.
Le livre a été publié il y a quelques mois donc, par Jean-Claude Rivéa. Est-ce que tu as déjà eu des retours ou des réactions?
Oh, tu sais, les réactions sur un livre, en général, sont assez faibles. On reçoit très rarement des courriers de gens qui ont lu, etc., et qui donnent leur avis. Je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas encore grand-chose comme réaction. Je sais que le livre a l'air de s'être assez bien diffusé, ce dont j'ai été le premier étonné, et donc cela répond aussi un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à Adamski, visiblement. Parce que sinon, je crois bien que le livre, à un moment donné, a été épuisé dans un premier tirage. Assez étonnant. Mm-hmm. Mais je suis encore assez mal informé au sujet. Je dois dire que je ne m'intéresse pas beaucoup aux questions de tirage et autres. Mais il semblerait que oui, le livre a vraiment intéressé beaucoup de gens.
Tant mieux, hein, on ne va pas s'en plaindre.
Pourquoi pas, oui.
C'est une bonne nouvelle. Et évidemment, tu viens de terminer ce gros projet. Est-ce que tu as d'autres choses en cours ou sur lesquelles tu vas travailler à partir de maintenant?
Disons que pour l'instant, je crois avoir bien gagné l'occasion de me reposer un peu dans le domaine ufologique. Je crois, depuis pas mal d'années, ça fait certainement maintenant plus de 20 ans que j'ai écrit des choses dans le domaine ufologique. Ça fait plus que 20 ans. Et donc, je crois que j'ai quand même dit 99% des choses de ce que j'avais à dire. Mmh. Donc, en ajouter, ce serait inutile. Donc, je crois qu'au point de vue ufologique, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et donc je n'ajouterai rien. Si maintenant un événement important venait à se produire, il est évident que si je le juge nécessaire, je réagirai. Il y a tant d'autres sujets qui m'intéressent que j'ai largement de quoi voir avec ces sujets-là. Et donc, pour l'ufologie, je ne dis pas que c'est terminé, mais au niveau des écrits, oui, c'est terminé, sauf si une réaction est nécessaire.
Ok, très bien. Encore merci d'être venu nous parler d'Adamski.
Mais de rien, Jean-Michel.
Nous arrivons bientôt au 100e épisode du balado et pour fêter ça, j'envisage d'organiser un Skeptics in the Pub à Bruxelles. On est encore en train de chercher un lieu où ça pourrait se faire. Donc les Skeptics in the Pub, c'est une initiative britannique où tout simplement les gens se rencontrent dans un bar entre sceptiques pour discuter entre eux des sujets qui les intéressent. Et on peut se rencontrer juste pour passer une bonne soirée ensemble, soit pour écouter des conférences. Et donc j'envisage de démarrer cela bientôt sur Bruxelles, et quand on aura trouvé un lieu adapté. Et je pense que donc pour lancer le Skeptics in the Pub Brussels, les sceptiques au café à Bruxelles, je pense donner moi-même une conférence d'à peu près une demi-heure consacrée au phénomène OVNI en tant que folklore moderne. Et puis on aura après un moment de Q&A, comme on dit, donc de questions et réponses. Voilà, et puis bon, ce sera le moment pour fêter le 100e épisode du balado, et ce sera l'occasion de nous rencontrer pour ceux qui sont en Belgique, ou dans les environs de Bruxelles en tout cas. Voilà, je vous donnerai plus d'informations plus tard, quand je les aurai, à propos du lieu et d'une date précise, mais voilà, je voulais déjà vous mentionner la chose. Si vous êtes intéressé de vous joindre à nous au Skeptics in the Pub Brussels, allez sur Facebook et j'ai créé une page pour les fans de ça. Donc vous tapez Brussels Skeptics in the Pub et vous tomberez sur notre page. Et devenez fan de cette page et j'utiliserai cette page pour envoyer les informations par email concernant le lieu, l'adresse et la date de l'événement et aussi évidemment pour les événements futurs. C'était Scepticisme Scientifique. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.
I'd like to start, if I may, with Professor Hawking. How did the universe start? With a big bang?
We observe that distant galaxies are moving away from us. They must have been closer together in the past. It was the beginning of the universe and of time itself. Anything that happened before the Big Bang could not affect what happened after.
The poetry of the expanding universe, the poetry of the complexity of life, we're not normally equipped to understand, and science gives it. Science is opening your eyes to the wonderfulness of what's there. Science is opening your eyes to the poetry of the expanding universe.
To come to you, Carl Sagan, could you help me by putting into layman's terms what was involved with this Big Bang?
The early cosmos was everywhere white hot. But as time passed, the radiation expanded and cooled. Then little pockets of gas began to grow, steadily brightening. We call them the galaxies.
It was the beginning of the universe and of time itself. Anything that happened before the Big Bang could not affect what happened after.
The poetry of the expanding universe, the poetry of the complexity of life, we're not normally equipped to understand, and science gives it.
In the Big Bang we had equal amounts of matter and antimatter, and as soon as these met each other, they annihilated together. And this battle played out whilst the universe expanded. In its first minute of existence,
they annihilated together.
And this battle played out whilst the universe expanded. In its first minute of existence,
they annihilated together.
It's not all that hard to detect the Big Bang. All you need to do is change the channel until you come between two stations.
All you need to do is change the channel.
About 1% of the snow and noise comes from the Big Bang itself. We're all eavesdropping on the birth pangs of the cosmos.
It was the beginning of the universe and of time itself.
And this battle played out.
Science is opening your eyes to the poetry of the expanding universe.
And this battle played out whilst the universe expanded. In its first minute of existence,
it was the beginning of the universe and of time itself.